She-Holds.
Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver après cette longue pause. Pour reprendre le terme de Marie-Rose Gallet, bienvenue à Andoland, les Hunger Games de la médecine. Marie-Rose Gallet a fait un livre qui porte sur la façon dont les anglo-saxons voient et traitent cette maladie. C'est une patiente éclairée qui, avec beaucoup d'humour, nous offre un livre très intéressant. Celui-ci remet pas mal de choses en question sur cette maladie et les croyances qui vont autour. On se retrouve toutes dans son livre à un moment ou un autre. Par exemple, quand elle parle des killer cramps, les crampes de la mort qui tue. Je trouve que c'est très bien imagé, car quand elles surviennent, on ne peut plus rien faire. Elle nous parle aussi de médicaments qui ne sont utilisés qu'en France, comme le Spasfon. J'ai hésité longtemps avant de lire ce livre, car des livres sur le sujet, on en trouve beaucoup et j'imagine qu'ils ne sont pas tous d'une grande aide. Mais une amie me l'a prêté et je la remercie encore. Tous les termes qu'utilise Marie-Rose sont simples. On sent bien le vécu derrière ces pages, sans pour autant tomber dans le livre autobiographique. Elle m'a donné plein d'espoir, même en ayant une forme douloureuse, elle a réussi à écrire un livre. Donc je me dis que moi aussi, même en étant malade, je peux accomplir de belles choses. Pour moi, cette maladie a plusieurs facettes, dont certaines faiblesses. Ces faiblesses nous assaillent quand on est douloureuse, et elles nous plongent dans un gouffre sans fin de sentiments négatifs. J'en ai réellement pris conscience ces derniers temps. Quand on souffre tous les jours et que les crises aiguës durent longtemps, on devient différente, on change. Toute notre hargne, surtout celle positive, toute notre combativité est mise au tapis. On est presque prêt à tout, voire à tout faire pour que cela s'arrête. Ce qui signifie aussi endurer la violence physique et verbale de certains médecins. Car on se dit que c'est pour notre bien. Dans ces moments-là, on est soumise à plus fort que nous, et souvent, il s'agit d'une personne du corps médical. Notre corps n'appartient qu'à nous, et personne ne devrait y toucher sans notre consentement éclairé et sans avoir de la bienveillance à notre égard. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle « Chez mon gynéco ». Elle a été réalisée par Marjorie Lenoir, Audrey Pierrot et Noémie Delattre. J'ai senti tellement de vérité dans cette vidéo. Je me suis reconnue dans certaines parties. Heureusement que toutes les femmes n'ont pas de mauvais rapports avec leur gynécologue. Mais hélas, beaucoup d'entre nous ont déjà subi au moins une fois un acte anormal lors d'une consultation. Si nous savions, dès le plus jeune âge, ce qui est tolérable ou non, et que cela soit ancré dans notre éducation, même en état de faiblesse, de fatigue et de douleur extrême, nous ne tolérerions jamais ces mauvaises actions. Je suis persuadée que c'est grâce à l'éducation que notre condition pourra devenir meilleure. Car même en cas de violence, il nous est difficile de les identifier pour différentes raisons. Le médecin qui va la pratiquer peut la justifier d'une façon ou d'une autre, et elle peut être intentionnelle comme non intentionnelle. On peut aussi en parler à un autre médecin pour avoir un autre avis, mais puisqu'il n'est pas présent, il donnera souvent un avis plutôt neutre. Et quand bien même nous arriverions à identifier ce problème avec exactitude, on ne sait pas vers qui se tourner pour dénoncer cet acte. Une fois, j'ai essayé de joindre un hôpital à ce propos. Malgré une lettre diplomate, leur réponse était presque agressive. Je ne me risquerais pas à le refaire. Donc finalement, quelle est la place de notre corps dans cette société ? Notre féminité est mise facilement et outrageusement en valeur dans les pubs, les différents magazines et tous les médias. Les films porno reflètent une sexualité qui n'existe pas dans la réalité. Le viol est vu par certains comme provoqué par celles qui le subissent. Et en médecine, on est souvent rabaissé à un état d'objet non pourvu de conscience. On ne nous reconnaît pas non plus le droit à une sexualité épanouie autre que pour la reproduction. Cette maladie est un immense prisme où la condition de la femme, la médecine moderne, la maternité et la société sont intrinsèquement liées. Et quand on est endométriosique, on se retrouve prisonnière de ce prisme. Comme le dit Mona Chollet dans son livre Sorcière, de toutes les disciplines médicales, c'est l'obstétrique qui perpétue de la façon la plus évidente à la fois la guerre contre les femmes et les biais de la science moderne. En 2017, Marlène Schiappa, qui à l'époque était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dénonce les violences obstétricales. Mais elle doit faire face à la colère des gynécologues. À cette époque, je comprenais les deux parties. La première, car pour en avoir vécu de nombreuses moi-même, je savais qu'il fallait commencer à agir contre cette normalisation des mauvais traitements du corps de la femme et du non-respect de son humanité. Et de l'autre, je m'imaginais des gynécologues professionnels et bienveillants s'insurger contre cette stigmatisation. Mais je ne pense plus qu'on stigmatise de façon irréfléchie. En creusant un peu, on peut voir toutes ces femmes qui souffrent et qu'elles sont bien loin de représenter une minorité. Et il est temps que les choses commencent à évoluer. Mais depuis 2017, il ne s'est rien passé. Les choses sont restées en l'état et les médecins violents sont restés rois en leur château. J'habite à Rennes, une ville super à bien des égards. Il y a de très bons médecins, aussi bien humains que professionnels. Et il y a aussi des endroits spécialisés pour l'endométriose, et qui malgré tout agissent de façon inhumaine et font des actes très discutables. Je me permets de vous redonner le contexte. Quand on doit faire une IRM de contrôle, il faut qu'elle soit faite dans des conditions adaptées. Donc avec l'insertion d'un gel pour avoir une meilleure visibilité. Une personne que je respecte beaucoup m'a raconté sa triste aventure lors d'une IRM. Personne ne l'avait prévenu qu'il fallait introduire un gel pour cet examen, ni qu'il devait être introduit par l'anus et par le vagin. On ne lui a même pas proposé de faire sa préparation elle-même, elle lui a été imposée par le personnel présent. Quand elle a demandé pourquoi on ne l'avait pas averti, le personnel lui a expliqué qu'il préférait ne pas prévenir afin que les patientes ne s'inquiètent pas par anticipation. Je pense que c'est surtout aux patientes d'avoir une opinion sur ce qui les stresse ou non et de choisir les conditions dans lesquelles elles souhaitent passer leur examen. Les rendez-vous en IRM sont rares, donc pour ne pas avoir à attendre plusieurs mois, une fois de plus, elle s'est tue et s'est soumise à l'autorité des blouses blanches. Je pense également à cette femme qui devait faire un prélèvement vaginal en urgence, car les douleurs étaient de plus en plus aiguës. Quand le gynécologue a dû introduire le spéculum, il a précisé qu'il était en rupture de stock de lubrifiant. Pour faire simple, il lui disait qu'il introduirait un corps étranger dans son vagin, sans délicatesse et avec des douleurs assurées. Heureusement, c'est une femme qui fait partie de celles qui ne se démentent jamais, et elle a proposé de faire son prélèvement elle-même, sans spéculum, ce qui a finalement très bien fonctionné. J'ai bien peur que beaucoup de femmes ce jour-là aient serré les dents en silence en attendant que l'auscultation douloureuse se fasse. Et honnêtement, j'en aurais fait de même. J'imagine que nous en avons toutes un paquet d'histoires horribles de femmes maltraitées pour leur soi-disant bien-être. Et j'espère qu'à force d'en parler et d'arrêter d'en avoir honte, les choses changeront. Si vous ne faites pas confiance aux chiffres ou aux statistiques, si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, posez simplement des questions aux personnes autour de vous. Et vous verrez, quand les gens se confient, un mur tombe. Et vous découvrirez que le poids qui pèse sur leurs épaules, la honte que ces patientes ressentent, devrait être ressentie par le praticien et non par elle. On ne choisit jamais d'être une victime. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. So